Ils n'ont pas la main sur le fait que les banques ne respectent pas la loi, puisqu'il y a un droit au compte, je le rappelle, en France.
Pour toi, quand est-ce que ce match entre banque et crypto, il a commencé, ou plutôt quand est-ce qu'on en a pris conscience ? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Unhosted pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, notre invité, c'est Alexandre Stachenko. Il est entrepreneur dans la crypto depuis 2015, il a écrit 2 livres et il va nous expliquer aujourd'hui comment les banques ont gagné un match contre la crypto en France. Avant de commencer, sachez qu'on est aussi disponible en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous permet d'avoir accès à de nouveaux invités et d'avoir des histoires toujours plus incroyables à vous raconter. C'est parti avec Alexandre. Salut Alexandre.
Salut Claire.
Bon, on se connaît bien. On a monté une boîte ensemble, on est dans l'écosystème depuis 9 ans maintenant presque. Et on a passé pas mal de temps à observer la rivalité entre les banques et la crypto. On a été dans des réunions qui ne sont pas du tout connues du grand public. Pour toi, quand est-ce que ce match entre banque et crypto, il a commencé, ou plutôt quand est-ce qu'on en a pris conscience ?
Nous, on est arrivé en 2015, mais 2015-2016, on est dans les premières années du début du bull run de 2017-2018 que les gens ont peut-être en tête. Donc, pour la plupart des pouvoirs publics à ce moment-là, les cryptos, parce que déjà, on parle de blockchain à ce moment-là, les cryptos sont un non-sujet, Bitcoin encore moins. Ça reste un non-sujet en fait, justement.
Ça n'existe pas, quoi. De toute façon, c'est l'hiver nucléaire des cryptos, il se passe rien.
En fait, c'est surtout que c'est un truc de geek, quoi. C'est marrant, mais bon, ça va embêter personne. Donc finalement, on s'en fout, on va pas y dédier des ressources. À partir de 2017, on voit que les cours commencent à monter. On voit les levées de fonds à ICO. Je me souviens à l'époque, il y avait des trucs délirants. On pouvait lever 30 millions d'euros. Je crois que par exemple, la levée de Brave, c'est 30 millions en 30 secondes.
Ouais, il y avait beaucoup d'articles de presse d'ailleurs qui créaient une espèce de FOMO sur ce boom des ICO.
Exactement. Les milieux plus traditionnels, que ce soit économique, politique, financier, bancaire, ont commencé à se dire OK, il y a un truc. Finalement, ce n'est pas qu'une bande de rigolos dans un garage. Donc, on va peut-être s'y intéresser. Et donc, à partir du moment où ils commencent à s'y intéresser, on a les premières initiatives, qu'elles soient réglementaires ou bancaires, pour un peu lutter contre ça. Et ça commence vers 2017-2018. Je pense que le début de l'histoire, vraiment, en France, c'est début 2018, où on a notamment Emmanuel Macron, qui vient de devenir président de la République, qui fait une première annonce. Donc pour la première fois, un président français parle des cryptos, et notamment de Bitcoin. C'était à Davos et il nous dit en gros je suis favorable à ce que le FMI puisse surveiller tout ce qui sort de la régulation financière, dont le shadow banking et les crypto-monnaies. Donc comme si c'était équivalent, alors qu'il y en a un, c'est des centaines de milliards, des milliers de milliards de choses illégales, et l'autre, c'est un truc qui est en train d'émerger.
C'est les plus agressifs, les plus dérégulateurs des systèmes.
Voilà, donc ça, on a la première prise de position officielle en France sur le sujet des cryptos. Alors évidemment, nous, à l'époque, on regarde ça, on se dit, oh là là, on est mal parti. On enchaîne avec, de mémoire, quelques semaines plus tard, la première mission d'information qui est mandatée par le gouvernement, par Bruno Le Maire, qui donne cette mission d'information à Jean-Pierre Landau, ex-Banque de France. Beaucoup de gens dans l'écosystème à ce moment-là, nous compris, mais il y en a d'autres évidemment, on se mobilise pas mal, on communique avec le cabinet de Bruno Le Maire, on essaye de dire « Attendez, vous avez raté un truc là, vous êtes en train de vous exprimer sur un sujet, c'est plus important que ce que vous pensez ». Et donc ça explique qu'effectivement, après plusieurs échanges avec le cabinet de Bruno Le Maire, 2 mois plus tard, en mars, il y a une tribune de Bruno Le Maire, de mémoire dans Numérama, je ne me souviens plus exactement, qui dit, en fait, la France doit être la blockchain nation. Alors là, on se dit, bon, revirement total, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ça peut aller vite, la politique en France.
Ouais, c'est la start-up nation, puis il y a une sorte d'élan quand même positif.
Exactement.
Parce qu'on sent qu'Emmanuel Macron veut insuffler quelque chose dans le monde des entreprises.
Exactement.
Donc on y croit. Quand même.
On y croit, exactement. Ouais. Et on y croit, et puis de toute façon, il se passe des choses. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, ensuite, il fait quoi ? Il organise un petit déjeuner avec les entrepreneurs du secteur, en juin.
Où on était tous les deux.
Le but du petit déjeuner est de dire, mais nous, en tant que puissance publique, on aimerait bien savoir, vous, ce qui vous embête aujourd'hui, pour pouvoir vous débloquer, vous aider à créer plein d'emplois et de richesses en France. Ça va être formidable. Et donc, tout le monde vient. Alors bon, entre les... Il y a des gens dont évidemment qui vont parler d'ICO, de machin de bidule, mais globalement, un message fondamental ressort, c'est qu'on ne peut pas faire d'entreprise si on ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Or, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire.
Ouais, parce que la réalité, c'est qu'à ce moment-là, et c'est d'ailleurs toujours un peu le cas aujourd'hui en France, une entreprise qui fait de la crypto, quand elle va voir son banquier et qu'elle lui dit « j'ai besoin d'un compte en banque », le banquier lui dit « désolé, chez nous, la crypto, c'est pas possible ».
Je sais même pas si elle dit « désolé », mais effectivement...
Oui, elle dit généralement pas « désolé », et quand elle accepte d'ouvrir le compte bancaire, elle se rend compte de son erreur 3 mois plus tard, et donc elle ferme le compte bancaire, voire même certains dirigeants se sont fait fermer leur compte bancaire personnel.
Exactement.
Et d'ailleurs, ça a été pointé dans un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a quelques semaines, Effectivement, ce constat est même partagé par les autorités publiques.
En fait, tout le monde le sait avant, parce que même de mémoire, il y a certains dirigeants de start-up françaises assez connus qui affichaient dans leur bureau les lettres de refus des banques, parce que c'était classique en fait. Personne ne pouvait ouvrir de compte bancaire, même des gens comme Pierre Noisa qui a fondé Paymium. Je me souviens qu'il m'avait dit, on a des virements, enfin après X fermetures de compte, on a réussi à en avoir un, mais dans ce compte-là, on avait des virements limités à 10 000 euros. Enfin, on ne peut rien faire en fait, on ne peut pas opérer une plateforme d'échange quand on ne peut pas faire des virements supérieurs à 10 000 euros, ce n'est pas possible. Donc il y avait une vraie hostilité, mais comme à l'époque, comme je le disais, c'était un non-sujet les cryptos, bah, tout le monde s'en fiche finalement qu'on n'ouvre pas de compte bancaire à des boîtes, bon, on ne sait pas ce qu'elles font. À ce moment-là, Bruno Le Maire, son cabinet et les gens qui étaient là prennent conscience, je pense, qu'il y a un problème. Effectivement, si la première brique de faire une boîte, à savoir ouvrir un compte bancaire, ne fonctionne pas, on risque pas d'avoir la blockchain nation qu'ils souhaitent. Donc ça va pas marcher. Donc ils sortent ce petit déjeuner avec cette idée-là, cette conviction, et ils s'activent assez vite finalement.
Et surtout, il nous dit « je vais m'en occuper ». Moi, ouais. Je me souviens vraiment de cette phrase du « je vais m'en occuper ». Il regarde ses conseillers en disant « organiser un appel avec la FBF, qui est la Fédération bancaire française mm-hmm. ». Donc on sent qu'il va prendre le sujet en main. Et nous, alors on est peut-être un peu naïfs à ce moment-là, mais on y croit. Et alors d'autres qui étaient autour de la table, des entrepreneurs peut-être plus aguerris, qui étaient dans la crypto depuis plus longtemps que nous, nous font déchanter quand même assez vite en nous disant « ouais, ouais, alors vous emballez pas, parce que tout ça ne sert à rien
ouais. ».
Mais bon, on y croit un peu quand même, et puis on voit des résultats.
Oui, bah on voit des résultats. En tout cas, on voit
une tentative, quoi.
Une tentative de résultat, parce que je pense qu'à l'époque, honnêtement, peut-être que j'ai encore gardé ma naïveté, il y a cette volonté de dire bon bah on va faire ce qu'on peut pour les aider. Ouais. Finalement, si ça coûte rien, on va débloquer la situation. Mais le problème, c'est que ça coûte pas rien. C'est ça le hic, comme on dit. Et donc s'organise une réunion à Bercy en juillet 2018. On est toujours en 2018. Avec, moi j'aime bien l'appeler la War Room, quoi. C'est vraiment, il y a tout le monde autour de la table, une table de 8 km de long avec tout le monde. Hein.
C'est qui tout le monde ? C'est les banques, c'est la crypto ?
Alors, du côté de la puissance publique, il y a la Direction Générale du Trésor, il y a TRACFIN, donc qui est l'autorité qui suit, qui trace les fonds de blanchiment, etc. Il y a l'AMF, l'autorité des marchés financiers, il y a la Banque de France, il y a l'autorité de contrôle prudentiel et résolution, il y a le cabinet de Bruno Le Maire, enfin il y a tout le monde, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens. Côté industrie, de mémoire, il y avait nous, il y avait Coinhouse, il y avait Ledger, je crois, à l'époque. Alors, désolé si j'en oublie un ou deux, mais en tout cas, on était 3-4 de l'industrie. Il y avait également la Caisse des dépôts. Et il y avait, de l'autre côté de la table, en bout de table, 5 personnes ou 4 personnes, je ne me souviens plus, de la FBF, donc la Fédération bancaire française, qui est censée être l'interlocuteur des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de sujets bancaires. Donc, c'est le lobby bancaire. Et je précise ici que lobby n'est pas un gros mot. Hein. Il y a des lobbies partout. Et c'est normal dans une démocratie d'avoir des lobbies parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas être experts de tout.
C'est quoi ? En fait, c'est une association, les banques cotisent chaque année. Exactement. Et c'est une association qui représente leurs intérêts auprès des pouvoirs publics.
Voilà, exactement. C'est censé éclairer les pouvoirs publics de l'expertise professionnelle qu'ils ont et que n'importe quel lobby est censé représenter. Alors la FBF est un peu différente dans la mesure où c'est le seul lobby qui a un monopole sur le compte bancaire. Donc en fait, c'est un lobby qui peut décider qui a le droit d'être concurrent ou pas. Donc c'est un petit peu différent par rapport aux autres.
Qui a le droit d'opérer tout court.
Exactement. Ouais. Mais lorsque c'est sur d'autres secteurs, bon, ça ne la concerne pas trop. Lorsque c'est sur son secteur, c'est bizarre, il y a souvent beaucoup plus de problèmes. Et cette réunion, bah, en fait, elle a été lunaire. Elle a été lunaire parce que dans la salle, tout le monde pensait être là pour résoudre ce problème. Les pouvoirs publics, nous. Mais pas la FBF, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas joué le jeu. On est dans une réunion où... La réunion commence par, de mémoire, la Direction Générale du Trésor qui dit « Merci d'être venu. On a convoqué cette réunion pour résoudre ce problème de compte bancaire, donc on va y aller très cash. Messieurs, dames de la FBF. »
Pourquoi
vous n'ouvrez pas de compte bancaire ? Qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Nous, en tant que puissance publique, vous voulez quoi ? De l'argent ? Il n'y a pas ça, mais il y avait un côté « Qu'est-ce qu'on peut faire ? On est là, on est volontaire, on veut être la blockchain nation, let's go. » Nous, on écoute ça, on est là, bah, trop bien, on va voir cette discussion. Et en fait, s'ensuit une sorte de scène de théâtre où la FBF fait tout pour délayer la discussion. Donc elle va poser des questions qui ne servent à rien, elle va demander, attendez, avant de répondre à la question, j'ai envie de savoir comment vous gérez l'homonymie dans vos fichiers.
L'homonymie, c'est-à-dire le fait que
deux clients aient le même nom. Voilà, donc question pas du tout cruciale, en fait tout le monde s'en fout. D'autant que la réponse, c'est bah, comme vous, puisque la quasi-totalité des professionnels du secteur crypto dans la compliance à ce moment-là viennent du secteur bancaire, donc... Ils ont juste des outils IA en plus, donc c'est même plus efficace. Mais ils délayent, ils ne répondent pas. La réunion est assez tendue parce que, effectivement, au bout d'un moment, bah, les esprits s'échauffent. On est là, genre, ça fait 2 heures qu'on est là, il ne se passe rien. Est-ce qu'on peut juste répondre à la question, s'il vous plaît ? Mais non, non, on n'a pas envie de répondre, on va répondre à autre chose. Écoutez, oui, mais vous avez fermé mon compte perso quand même, donc là, ça commence à s'échauffer. Alors là, ça ne me concerne pas, parce que moi, je suis l'AFBF, je ne suis pas une banque en particulier, je ne peux pas répondre de telles... Donc, ça brasse de l'air, il ne se passe rien. Et au bout de... Vraiment, la réunion a duré très longtemps, je crois, 3 heures ou 4 heures. Et l'AFBF part en étant très content du résultat. Merci, réunion très productive.
Du non-résultat.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, tout le monde est là, genre, mais il ne s'est rien passé dans cette réunion. En fait, personne n'a répondu à la question. L'AFBF, évidemment, va répondre, écoutez, là, il y a l'été, on est en août. Après septembre, c'est la rentrée, ça va être tendu. Bon, bref, ils font tout pour organiser la réunion, la prochaine réunion le plus tard possible. Et donc, il y a ce choc de se dire, mais en fait, Bercy peut vouloir ce qu'ils veulent.
Ouais.
Ils n'ont pas la main sur le fait que les banques ne respectent pas la loi, puisqu'il y a un droit au compte, je le rappelle, en France.
Oui, mais c'est vrai que, et c'était peut-être là notre naïveté à nous, c'est que nous, on croyait que quand un ministre, comme Bruno Le Maire, allait voir les banques, bah, derrière, ça s'exécutait. Mm. Alors qu'en réalité, quand Bruno Le Maire a appelé le patron de l'AFBF ou des patrons de banques, le rapport de force n'est pas du tout celui qu'on
imaginait. Non, en fait, c'est même un jeu qui s'est étalé sur les dernières années, qui s'est retourné contre eux, c'est que l'écosystème bancaire français... C'est extrêmement concentré. Aujourd'hui, quand on fait 5 banques, on a fait le tour du marché, en gros. Et donc, les 5 banques qui restent, elles sont toutes systémiques. Elles ont toutes énormément de salariés. Et pour certaines, elles gèrent plus de PIB que la France. Donc, en fait, le rapport de force n'est plus du tout le même parce qu'il y a une forme de chantage à l'emploi. Attention, si vous faites une régulation trop dure pour nous ou si vous nous empêchez de faire ce qu'on veut, ah, on va peut-être licencier du monde. Et les gens ne vont pas voter pour vous. Ah, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en fait, c'est malsain. C'est hyper malsain. Mais on se rend compte dans cette réunion, effectivement, que ça ne va pas se passer aussi bien que ce qu'on pensait et que là, le début de l'année to the moon, il est un peu derrière nous.
Et la justification des banques, mais qui continue aujourd'hui pour ne pas ouvrir de compte, c'est de dire qu'il y a un risque de blanchiment et nous, la régulation nous impose de lutter contre le blanchiment et donc on ne peut pas assumer ce risque et c'est pour ça qu'on n'ouvre pas de compte.
C'est qu'effectivement, les banques, à un moment donné, sont obligées de répondre. Elles vont dire, bah, écoutez, nous, on ne peut pas ouvrir de compte parce qu'il y a des risques de blanchiment. On est responsable de ça, donc on ne veut pas perdre notre licence bancaire, on ne veut pas être en prison parce qu'il y aurait une petite boîte de 2 salariés qui aurait blanchi 10 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Donc on ne veut pas prendre le risque. Donc on refuse.
Néanmoins, à ce moment-là, le régulateur propose quelque chose et propose de prendre ce risque sur lui.
C'est donc même, j'allais dire, le régulateur, les pouvoirs publics, etc., dans un esprit de construction, répondent « Ok, on comprend, mais que nous dites-vous si c'est nous qui prenons le risque » C'est-à-dire qu'on va faire un statut officiel dans la loi et on va dire aux startups de postuler à ce statut et si elles l'obtiennent, bah en fait, c'est plus vous qui portez le risque puisque vous vous retrouvez à ouvrir des comptes bancaires pour des boîtes qui sont validées par le régulateur. Donc à ce moment-là, vous ne portez plus le risque. Est-ce que ça vous va ? Donc les banques n'ont pas trop de choix si elles veulent être un tant soit peu crédibles que de dire oui, ça peut aller. Bah, c'est ainsi qu'est né le statut PSAN. Une forme de deal officieux que le régulateur va prendre le risque sur lui, que le gouvernement va prendre le risque de réputation, que les startups vont devoir mettre des centaines de milliers d'euros sur la table et donc ne pas les dédier au commercial, etc., pour se développer. Et les banques ne font aucune concession, c'est ça qui est drôle. Donc elles disent...
Finalement, ça permet aussi de comprendre pourquoi les startups crypto françaises, à l'époque, ont accepté, et voire même ont accueilli avec une forme d'enthousiasme ce statut PSAN, donc prestataire service sur actifs numériques, parce que ça allait leur permettre d'avoir des comptes bancaires.
Exactement. Donc on veut bien accepter le dilemme, de toute façon, si c'est soit ça, soit l'exil. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc acceptons, tout le monde fait ses concessions, sauf l'industrie bancaire. Mais on se dit, c'est pour la bonne cause. Allons-y.
Donc, enfin, ça, c'est ce qu'on croit, puisque la réalité, c'est que ça n'a pas fonctionné. Je me souviens encore de l'affaire de Bitcoin Avenue, je crois que c'était en 2021, qui obtient son enregistrement PSAN et qui, dans la foulée, se fait fermer son compte bancaire parce que le fait qu'il ait obtenu cet enregistrement a fait qu'il a été repéré par son banquier qui s'est dit « Oh mon Dieu, un client qui fait de la crypto » et qui a fermé.
Exactement. Et en fait, tu auras noté que dans ce que tu dis, on est passé de 2018 à 2021 comme ça. Pourquoi ? Parce que pendant 3 ans, tout le monde se dit le temps que la loi passe, loi PACTE, il faut qu'elle soit votée, qu'elle soit appliquée, que le régulateur vérifie, et qu'ensuite qu'on voit si les banques ouvrent des comptes ou pas. Ouais. Tu perds 3 ans dans l'affaire. Et effectivement, 3 ans après, on se rend compte que les seuls qui n'ont pas fait de concession sont également les seuls à ne pas respecter leur part du jeu.
Oui.
Donc se relancent des groupes de travail, en fait, qu'est-ce qui manque ? Pourquoi est-ce qu'on on remarquera qu'à ce moment-là, en fait, le problème est toujours le même. C'est-à-dire, de mémoire, il y a un groupe de travail de France Stratégie, il y a un groupe de travail de la place FinTech. Tout le monde se réunit.
Je me souviens que tu avais passé beaucoup de temps.
Un peu trop même, d'ailleurs. Mais, et tous partent du même problème. On se dit, mais attendez, on est en 2018 ou on est en 2021, là ? On est toujours sur le même problème. Les gens n'arrivent pas à ouvrir de compte bancaire. Qu'est-ce qui se passe ? Et l'AFBF continue son petit manège. Je crois que c'est le groupe de travail de France, de la place FinTech, où un an après avoir travaillé, Les conclusions sont rendues sur le fait que bah, normalement les comptes devraient être ouverts, il n'y a pas de problème. Bah, la FBF se désolidarise des conclusions. On vient de reperdre un an dans l'affaire.
Ça me rappelle ça, une discussion que j'avais eue avec l'ancienne directrice de France FinTech, mm-hmm. qui m'a raconté exactement la même chose sur le marché FinTech. Donc, ouais. Pour le coup, pas crypto, mais qui était quand même un secteur en concurrence avec les banques. Et elle avait eu exactement les mêmes problèmes que le secteur crypto.
En fait, c'est ça, j'allais dire, même le plus scandaleux, parce que tout ce qu'on vient de raconter jusqu'ici, je vois déjà ceux qui n'aiment pas les cryptos dire finalement, c'est pas si grave qu'on n'ait pas permis à un secteur si inutile, polluant et terroriste que les cryptos d'émerger. Mais en fait, le sujet n'est pas la crypto ici. Le sujet, c'est que si vous concurrencez les banques, vous ne pouvez pas émerger. Et ça, c'est pas que la crypto. Et effectivement, en France, on l'a déjà vu sur les fintechs, et on a tous les deux eu des conversations avec des gens qui ont évolué dans ce milieu-là avant nous, 2010, 2011, 2012. Même chose, même mode modus operandi. Donc on est 15 ans après, on est en France, hein, l'industrie financière la plus puissante d'Europe, on a inventé la carte à puce, on a le prix du méga-octel moins cher d'Europe, on a tout ce qu'il faut. Et après, tu regardes le classement des fintechs. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui sont des licornes françaises.
Conto, Lydia, enfin, il y en a quelques-unes.
Les historiques Conto, Lydia, depuis, on en a ajouté une ou deux entre Payfit, etc. Mais elles ont tout un point commun, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir accès aux données bancaires.
Ouais. Tu me diras, c'est comme dans la crypto, où les licornes françaises qu'on a dans la crypto, Ledger et Sorare, sont des sociétés qui n'ont pas eu besoin du
statut PSAN.
Exactement. Et qui ont pu dire à leur banquier, nous, on ne fait pas vraiment de la crypto.
Exactement.
Parce que Ledger fait du hardware et Sorare fait un jeu et dans le game.
On fait du divertissement. Donc effectivement, avec d'ailleurs des stratégies qui sont que ces deux boîtes-là dans la crypto, mais c'est pareil sur les fintechs, font du lobbying de leur côté. Elles essayent, enfin on en arrive à des situations effectivement qui sont du coup contre-productives pour l'écosystème, où c'est dans leur intérêt de faire du lobbying en dehors du lobbying des boîtes crypto, parce que sinon elles sont assimilées au secteur crypto, ouais. Et donc elles sont aussi victimes de tout ce spectacle, quoi, ce cirque en fait, tout simplement.
Et donc il y a une sorte d'abus de position dominante presque de
clairement.
Certains acteurs, des banques, mais comme on a pu le voir aussi dans le numérique.
Ouais, parce que mais dans le numérique, c'est fini.
Comme Google, comme Apple, qui profitent de leur position dominante pour éviter de favoriser des concurrents.
Deux choses à dire là-dessus. Première chose, c'est que numéro un, tout le monde s'est aperçu, ça a pris du temps, mais tout le monde s'est aperçu que maintenant c'était un problème de souveraineté énorme. C'est-à-dire que t'es entrepreneur français qui veut faire une appli, bah faut demander l'autorisation soit à Apple, soit à Google. C'est embêtant. Et la deuxième chose, c'est que ce truc-là est puni. C'est-à-dire que Google ou Apple en sont pas à leur première amende d'appui de position dominante, Google Shopping, les AdWords, les trucs, les machins. Effectivement, donc ils prennent je crois que la plus grosse pour Google était de 2 milliards d'euros. Donc ce genre d'abus est puni. Ça n'empêche pas qu'il existe, mais il est puni. Mais on n'a pas la même sévérité sur quelque chose qui est gros comme le nez au milieu de la figure, qui est, il y a une industrie qui contrôle qui peut ouvrir des comptes bancaires sans lesquels on ne peut pas faire d'entreprise, et qui empêche toute industrie financière de les concurrencer depuis maintenant plus de 15 ans. Et là, je n'ai pas vu d'amende spécifique sur abus de position dominante.
Bon, est-ce que tu penses qu'il y aura un nouveau match entre les banques et la crypto ? Est-ce que tu penses que c'est fini ?
Bah, entre les banques et la crypto, je ne sais pas, il faudrait définir la
ou
crypto.
Ou l'industrie crypto.
Voilà, entre les banques et Bitcoin, déjà, il y a un match particulier qui, à mon sens, Bitcoin a déjà gagné. C'est juste que ça va prendre du temps, mais les banques seront fournisseurs de Bitcoin demain. Moi, ça me semble assez évident. Entre les banques et la crypto, il n'y a pas tant que ça de match dans la mesure où, en dehors de Bitcoin, la quasi-totalité sera de l'hybridation. Ce sera de la tokenisation d'actifs réels, etc. Et les banques seront parfaitement dans leur rôle de gérer ce genre d'intermédiation et de conseil. Par contre, contre la crypto française, au sens l'écosystème, l'industrie, les acteurs, etc., ça va être difficile. Je ne veux pas dire que c'est impossible, parce que, bah, déjà parce que je suis toujours là et que je me bats. Donc j'essaye de faire des choses. Il y a d'autres gens qui ont plein de talents et plein d'ambitions qui essayent de faire des choses, mais disons qu'ils sont en train de remonter une pente à 25 degrés contre eux. Donc typiquement, sur le sujet des plateformes d'échange, ça va être compliqué. Parce que la richesse d'une plateforme d'échange, c'est sa liquidité. Donc quand vous avez 120 millions de clients et que la quasi-totalité des ETF américains sont chez vous, pour ne pas citer Coinbase, c'est compliqué d'émerger. On va se retrouver à voir pendant 15 ans, est-ce qu'on ne ferait pas un Google français et puis on va mettre des subventions publiques dedans. Ça va être débile, mais c'est comme ça, a priori, que ça va se passer.
Okay. Bon, merci Alexandre.
Ben, de rien, merci Claire pour l'invitation.
S'il te plaît. Alors vous l'avez remarqué, Alexandre a un côté un peu pessimiste. Mais rassurez-vous, tout n'est pas joué et on va continuer à suivre ces sujets ici. Vous pouvez retrouver Alexandre sur ses réseaux sociaux, sur son site web. Et la semaine prochaine, on va parler d'escroquerie crypto, quels sont les scams qui marchent le mieux et surtout, que faire si jamais ça vous arrive. Abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.